Japan FM, toute la G-Music, une seule web radio.
Bonjour et bienvenue en ces Geek Days de Lille, vous êtes en direct sur Japan FM. Nous sommes aujourd'hui pour une émission spéciale, pas vraiment une émission, plutôt une table ronde, on va dire ça comme ça. Une petite discussion sur l'univers de la BD. Je suis en co-animation avec H. Salut H, tu vas bien?
Salut Tenchi, tu vas bien?
Tranquille, en place. Et nous sommes là avec des grands noms de la bande dessinée. Nous sommes là, H, je vais te passer la balle, tu as commencé les présentations.
Alors, des grands de la bande dessinée, il y a des gens qui travaillent autour de ce médium, ou des gens qui en sont issus. Et puis, des gens qui sont journalistes, comme Xavier Fournier.
Bonjour.
Bonjour Xavier. Toi, tu es rédacteur en chef de Comics Box. Mmh. Tu es aussi essayiste. Tu as écrit des livres sur les super-héros français.
Ouais.
Tu as plusieurs années d'expérience, on va dire, dans le monde du comics, ou dans l'analyse du monde du comics.
J'ai commencé, c'était un autre siècle.
C'était donc toi. Et puis, pour nous accompagner aussi, nous avons Jessica Young.
Oui, bonjour.
Bonjour Jessica. Dessinatrice toute nouvelle arrivée dans la team des Légendaires, avec la bande dessinée franco-belge Les Légendaires, Parodia. Ça va?
Parlez plus près du micro, mademoiselle.
Oui. N'aie pas peur, le micro ne te mangera pas. Avec nous, nous avons aussi, PA d'ailleurs, je te laisse présenter un peu nos autres invités.
Alors nous avons avec nous Philippe Cardona, auteur devant l'éternel, auteur... Est-ce que je fais toute la biographie? Né en 1700 à Marseille.
Oh merde.
Alors,
pas lui.
Philippe qui revient actuellement sur le devant de l'actualité avec un titre qu'il a fait connaître justement avec Sentai School, qui est aussi l'auteur de Noob, la série, qui est l'auteur de Serge, le hamster de l'enfer, de Roll Queer, le chevalier français perdu au Japon. Et nous avons dans la... Est-ce que je cite les premiers travaux?
Non,
ou pas? Non, non,
non,
on passe ça sous silence. Et nous sommes aussi avec l'absence de Florence Torta. Florence Torta qui est coincée dans les bouchons, dans les embouteillages.
Vous la voyez dans une allée, faites-nous signe, criez, allumez un feu.
Voilà. On va ouvrir une boîte de camembert pour la faire venir, ça va être pas mal. Du figatellu aussi. Donc oui, avec Philippe et Flo qui sont avec nous. Donc Flo va pas tarder à arriver, qui est la coloriste de Flo, parce que Flo travaille sur beaucoup d'autres projets.
Elle est scénariste, elle est co-scénariste avec moi sur un projet, elle est coloriste, elle dessine aussi un peu, elle est multicasquette, comme on dit.
Elle est multicasquette. J'ai l'impression que c'est de plus en plus une nécessité dans le métier d'être multicasquette.
Ça a toujours été le cas, on a toujours eu des auteurs qui faisaient un peu plus... T'as vu comme je finis bien ma phrase?
J'attends de te laisser le blanc de l'enfer, tu sais.
Moi j'aime bien si tu nous développes un suspense, mais un truc de fou quoi.
On m'a dit qu'il faut faire des cliffhangers dans les médias, tout ça, pour accrocher l'auditeur.
Xavier, tu sens le concept pour un futur Comics Box, la moitié des articles, l'autre moitié.
Il faut que je réfléchisse, je suis pas sûr du coup encore.
Faut que ça s'inspire de l'inspecteur Derrick Handstopper, les suspenses de l'enfer.
Oui, il faut y aller.
Alors, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Pour nos chers petits auditeurs, spectateurs maintenant qui nous regardent, oh mon dieu que je suis flou sur ce retour. Fais de la netteté, petite caméra. Par souci de simplification, souvent dans l'univers de la BD, quand on parle BD, on va distinguer trois écoles par facilité. On va distinguer le franco-belge, on va distinguer le comics américain et le manga japonais. On sait très très bien que ça ne se limite pas du tout à ça, que dans le 9e art, il y a beaucoup d'autres tendances, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais par souci de facilité pour introduire un petit peu les gens dans cet univers, si on devait définir ces trois grandes écoles en quelques phrases, vous le feriez comment?
Moi je pense que c'est un petit peu une escroquerie intellectuelle. Je suis à Japan Expo, sur Japan FM, pardon. Je travaille sur Comic Box et c'est des mots bien typés. Mais en même temps, c'est des ghettos qu'on a pris parce que personne ne voulait y aller. Et la vérité, c'est que c'est un truc très européen de séparer les trois creusets. Tu parles à un Américain de Akira ou d'Astérix, pour eux, c'est des comics. Et je connais un peu moins bien le Japon, mais je pense que pour eux, c'est une grande bande dessinée mondiale, et voilà. Alors en Europe, on a inventé ces trois catégories-là parce qu'on s'est dit que c'est vachement plus facile d'être champion du monde si on dit que les autres ne jouent pas dans la même catégorie.
Et
si on disait que nous on fait du cinéma et que les autres font des movies, on passerait pour des crétins. Pour la BD, je pense que c'est un peu pareil. À plus forte raison aujourd'hui, où tu vois des influences. Enfin, je veux pas parler pour Philippe, mais je suis sûr qu'il a été biberonné aussi bien au manga qu'à la franco-belge qu'au comics.
Moi, quand on me demande des influences, je cite Akira Toriyama et André Franquin. Voilà, pour moi, ils sont au même niveau. Ce c'est pas parce qu'il y en a un qui est japonais, un qui est belge, tout ça. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Faut pas oublier que manga, grosso modo, c'est en japonais, ça veut dire bande dessinée, et comics en anglais, grosso modo, ça veut dire bande dessinée aussi. C'est juste une traduction de la traduction d'un même terme. Donc voilà, dire que le manga c'est pas pareil que le comic, c'est pas pareil que la BD, ouais, c'est un peu.
Finalement, tu penses que tout ça, vous pensez tous que tout ça, ça dévalorise finalement la bande dessinée, ou justement ça fait que poser des clivages qui permettent à des gens de s'identifier?
Dévaloriser, non, je pense pas, mais oui, par contre, oui, créer des barrières, oui, c'est un peu dommage, quoi. Mais on aime bien mettre les choses dans des cases et dire. C'est comme les gens qui, par extension, pensent que le comics, c'est que du super-héros. C'est un peu dommage, quoi.
C'est pas que du grand collant, c'est ça que tu veux dire.
Voilà. Mais voilà, je crois que quand tu vas au Louvre, il n'y a pas. On ne dit pas que. Je sais pas quel est le mot italien pour la peinture, mais on ne dit pas que la Joconde, c'est pas de la peinture. Voilà, quoi. Donc, il y a des choses. Et à plus forte raison, cette génération d'auteurs, elle a pu un peu mélanger tout ça au moment où elle lisait de la BD en tant que consommateur. Et aujourd'hui, on ne peut plus simplement dire que les gens ont été élevés à coups de Tintin, d'Hergé. Et non, ils ont mangé de tous les plats.
Jessica, tu confirmes ça, toi qui es jeune auteur, qui vient de commencer, on va dire, à être édité, t'as été un peu justement toi aussi dans le clivage, ce que tu fais c'est là et pas autrement?
Bah oui, justement, c'est plutôt les lecteurs qui ont tendance à mettre les artistes dans des cases.
Ils sont tellement habitués à ce que vous ayez soumis dans un casque qu'eux-mêmes ont finalement pris le pif de vous y laisser. Oui.
En fait. C'est très drôle, moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années en faisant du fanzina, et on était plusieurs auteurs à avoir ce style hybride un peu comics, franco-belge, manga, et on allait dans des conventions franco-belges, les gens nous disaient non, c'est trop manga ça, c'est pas pour nous, et on allait dans des conventions manga type cartooniste, on nous disait c'est trop franco-belge ça, les yeux ils sont pas assez grands, les cheveux ils sont pas assez pointus, parce que bon, les gens caricaturent toujours, voilà.
Les gens arrivaient, tu fais du manfra?
Oh là là, ne parlez pas de ce mot. Le franga, le manfra.
Le comics aussi a été très clivé. Déjà au début, c'était référencé limite comme de l'horreur.
C'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose que les mangas connaissent pas à ce point-là. C'est-à-dire que tu le vois dans les manifestations culturelles, quand on fait référence à l'univers du manga, il y a la nourriture, il y a souvent des expositions artistiques, on s'intéresse, je sais pas moi, au sabre, choses comme ça. Quand tu rappliques avec les comics, il y a tout un espèce de phénomène où on t'associe ça à de la fast-food culture. Et donc, forcément, voilà, quoi, on s'intéresse pas à l'art de vivre. Voilà. Donc, vraiment, la bande dessinée américaine, elle n'existe que par elle-même. Là où peut-être je pense que le spectre est un peu plus large quand il y a des événements manga. Et puis, se rajoute à ça le fait qu'il y a des gens qui projettent leurs propres fantasmes sur les États-Unis. Donc, dès lors que tu parles comics, on va te dire, bah oui, c'est Rambo, alors ce qui est déjà une connerie quand on s'intéresse un peu à Rambo. Mais voilà, tu peux dire que Captain America, c'est une bande dessinée qui est super critique envers les États-Unis et envers le gouvernement. Et les gens vont te dire, ah non, il a le drapeau sur la tête, donc forcément, il est aux ordres de Trump et compagnie. Donc, on dit toujours, ne jugeons pas les livres à leur couverture, et il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ça avec les bandes dessinées, quelles qu'elles soient.
Oui, après, c'est toujours le problème quand on explique à des néophytes qui veulent se lancer dedans, bon, par quoi je commence, partout.
Mais ça, c'est pas tout à fait la même chose, parce que le néophyte, il a envie de découvrir, donc a priori, il n'a pas d'a priori. Là, on parle plutôt de gens qui, eux, n'ont pas envie de découvrir, qui sont convaincus d'avoir compris le truc en feuilletant, en regardant la couverture, en disant « c'est bon, j'en ai fait le tour ». Et bah oui, mais tu peux regarder l'extérieur d'une voiture de course, et c'est pas pour ça que tu vas devenir un mécanicien, quoi. Donc
l'accessibilité n'est pas tout à fait la même, disons, parce que le comics c'est quand même un pont d'histoire. Alors bien sûr, il y a aussi plein de nouveautés qui sortent, il y a de nouvelles histoires, on peut s'accrocher à de nouveaux personnages, on peut s'accrocher à de nouveaux univers, des nouvelles maisons d'édition. En BD franco-belge, bon, c'est vrai que il y a les classiques, ce que les gens appellent les classiques, hein, qui restent et qui sont toujours affichés, les Tintins, les Lucky Luke, des choses comme ça, et puis à côté il y a le reste dans la tête des gens, enfin en tout cas c'est ce que moi j'entends le plus souvent. Et puis le manga, c'est l'accessibilité immédiate quasiment à chaque fois qu'on demande pour le lecteur, c'est l'accessibilité immédiate, c'est facile à lire, on rentre dedans, on est tout de suite dedans, c'est plus ou moins court à part quelques sagas fleuves, et c'est facile d'accès. Ces trois pans là justement, vous voyez comme ça aussi ou pas du tout?
Bah moi personnellement, hein, pour moi je le vois pas du tout comme ça justement, parce que les mangas à l'inverse c'est des séries super longues. Je veux dire voilà, moi ma BD préférée vraiment en termes mondial c'est One Piece, mais j'ai beaucoup de mal à le conseiller aux gens parce qu'il y a 80 tomes pour le moment. Et tu vois, c'est pas le truc justement très facile d'accès, à la différence de pour caricaturer un tome d'Astérix où c'est des one-shot que tu peux lire dans le désordre. Voilà, moi personnellement je trouve pas que le manga soit plus facile d'accès, mais pas dans le sens où ça veut pas non plus dire qu'il est difficile, mais pour moi je j'arrive vraiment pas à catégoriser comme ça quoi.
Dans le comics on a les reboots qui permettent souvent de reprendre, de commencer quelque chose.
Je suis pas sûr parce que le reboot en général c'est un redémarrage pour ceux qui connaîtraient pas les termes techniques, hein. Une relance de la série au tout début, mais ça s'adresse à des gens qui lisent déjà des comics. Quand on entend parler du reboot, c'est que t'es déjà un petit peu dans la sphère. Ouais. Mais la vérité, c'est que tous autant que moi, je connais personne qui a commencé à lire ou alors faut vraiment que j'aille faire une visite chez lui et que je pique sa collection, mais je connais personne qui a commencé à lire Superman au numéro 1, Action Comics numéro 1, les X-Men au numéro 1, Amazing Spider-Man au numéro 1, non, ça n'existe pas. On est tombé dedans, on a pris le truc en marche, on s'est refait une petite collection, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose, et voilà. Et maintenant, entre certaines formules numériques et puis ce qu'on appelle dans les comics les TPB, mais ce qui sont finalement des recueils, ce qui te permet de retrouver Spider-Man depuis 62, 63 dans l'ordre, et ben, globalement, si tu as envie de vraiment lire les premiers épisodes, tu peux les lire. Donc je pense pas qu'il y ait un problème d'accessibilité. On voit bien ça avec des séries qui marchent un tout petit peu, comme un certain Walking Dead. Et tu vas dans la plupart des librairies, il y a de quoi faire le début de la série sans trop de problèmes. Donc l'accessibilité, ça a peut-être pu jouer à une époque où les comics étaient surtout mal vu du monde de l'édition en France, et du coup la licence tombait surtout sur des éditeurs de presse populaires, ce qui veut dire que Spider-Man, Superman, Batman et compagnie étaient vendus en kiosque. Et quand tu es vendu en périodique, par exemple, ça veut dire que tu n'es pas du tout considéré pour les prix de bande dessinée. Hein. On ne récompense que les albums.
Du magazine à ce moment-là.
Oui, et donc les rayons comics dans les kiosques, pour avoir collectionné à une certaine époque, je peux te garantir que c'était pas évident toujours de les trouver. Il y avait même des bureaux de tabac qui te rangeaient ça du côté de la BD pour adultes, et il fallait même des fois un peu négocier avec le vendeur en disant non, mais j'ai le droit, c'est un truc de super-héros, c'est inoffensif. Donc voilà quoi.
Ce qui explique ma collection de Playboy, incroyable.
Et ce qui est rigolo, il a acheté un Spider-Man offert, c'est ça ?
C'est exactement.
Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait. Moi, j'ai connu ça aussi exactement. Tu voulais acheter ton numéro de Strange qui était avec lui, New Look et tout. Et après, quelques années plus tard, j'ai connu ça aussi avec les mangas qui sortent en kiosque, quand il y avait Kamea Magazine, Manga Player et tout, au milieu des années 90. Voilà, Okaze.
On savait que tu achètes Shin Angel sous plastique.
C'est ça. Oh, aucun, là. Mais. T'allais acheter ça, je voudrais mon numéro de Kamea, le mec il avait mis ça entre un penthouse et un vieux truc dégueulasse là, c'est hors sujet quoi.
Ça c'était la grande époque, la grande époque, c'était l'époque, voilà, c'est une période années 80-90 qu'on a tous connu, même un petit peu antérieur je crois, au cas tout ça c'était 90,
c'est tout le
90
pour le manga. Là maintenant on assiste vraiment à une mutation de l'univers de la bande dessinée en général, hein, quel que soit le terrain. Les lignes éditoriales, il y a les supports, on a du transmédia de plus en plus, il y a les méthodes d'édition qui changent pour s'adapter à un marché qui est devenu hyper capricieux, hyper sélectionnant. C'est quoi votre regard sur ces évolutions et qu'est-ce que vous pensez que dans les changements qui vont être les plus importants à terme, qu'est-ce qui relève du gadget et qu'est-ce qui va vraiment changer l'univers de la BD selon vous?
Moi je crois qu'il y a un truc qui passe avant tout le reste, c'est la condition de l'auteur en ce moment, du créateur. Qui est complètement précarisé. C'est-à-dire que quand on voit les statistiques sur le niveau de vie d'un gars qui veut faire. Alors, je parle pas du scénariste, il y en a quelques-uns qui sont scénaristes à plein temps, mais on va dire souvent c'est une activité que tu peux faire avec autre chose. Mais quelqu'un qui investit des mois de sa vie pour faire un album, il y a une époque où il pouvait tenir le plus clair de l'année avec son album. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de dessinateurs sont pratiquement obligés de faire deux à trois albums par an.
À moi, j'ai la chance de vivre en faisant que de la BD, mais je fais à peu près 5 albums par an.
Voilà, donc
4 à 5 albums par an.
Par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'il faut bosser, c'est travailler plus pour gagner à peu près autant.
Gagner pareil,
même. Et encore moins parce que t'es plus taxé. Donc il y a un vrai problème. Là où dans le cinéma, par exemple, il y a les intermittents du spectacle, il y a une défense de cette culture. On s'est dit, si le cinéma français va s'éteindre, si on ne trouve pas un moyen que les comédiens soient. Une visibilité sur leur sort. Et là en ce moment, alors que le nombre d'auteurs en France n'est pas excessif, hein. je crois que c'est je crois qu'il y a 1500 personnes qui vivent donc ça peut se trouver. Et ben non, on les laisse péricliter en se disant il y aura toujours des petits jeunes qui arriveront sur le marché pour bosser encore moins cher ou puis faire l'album d'après. Donc ça c'est un vrai problème, c'est le truc qu'il faut régler avant tout, parce que sinon on peut parler du présent de la bande dessinée mais il n'y aura pas d'avenir.
Jessica, toi tu es une jeune auteur, tu as mis combien de temps pour faire ton album, l'album que tu as de Parodia?
Un an.
Un an, oui. Et pendant cette année, tu as fait que ça, tu étais vraiment centré que sur ça?
Que de couture.
D'accord, et tu me disais, je sais où on parlait, que tu disais que de toute façon, tu avais de la chance de pouvoir vivre cette année grâce à cet album, parce que tu as la chance, c'est sur un titre important, mais que tu connais plein de gens, et toi-même, avant les autres années, tu n'aurais pas eu assez pour vivre justement. Si tu avais fait d'autres titres qui étaient peut-être moins porteurs, des titres que tu aurais dû faire découvrir toi-même.
Oui, tout à fait.
En combien de mots Non, alors en fait. Confirme-moi. Tu connais toi aussi, bien sûr, tu es dans la sphère dessinateur, dessinatrice. Tu en connais peu qui vivent de ce métier et qui sont obligés de cumuler des boulots, voire d'avoir un autre boulot à côté qui est autre que la créative.
Il y en a peu, oui.
En fait, le paradoxe qu'il y a un peu maintenant, c'est que c'est plus facile d'être publié à notre époque, mais c'est beaucoup plus dur de vendre. Voilà, arriver chez un éditeur qui va dire hey, c'est trop bien, je te signe pour deux albums et qui va te sortir ton bouquin, ça, tu l'auras limite fastoche. Mais après, il va imprimer ton bouquin, ça sera sur la table des libraires, ça va rester peut-être une semaine sur la table, puis après ça va dégager parce qu'il y aura d'autres nouveautés, personne n'aura vu ton bouquin, et voilà. C'est ça le plus dur maintenant à notre époque, c'est de vraiment d'être vu, d'être connu des lecteurs. Et avant, les éditeurs laissaient un peu de temps pour que les titres s'installent. Tu pouvais avoir 2-3 ans le temps que les gens se fassent voient le truc. Là non, maintenant moi j'ai
on noie sorti... les titres, on noie sous là, là.
Ah, j'ai sorti une nouvelle série qui s'appelait Roll Queer en 2013. C'est sorti début juin, mais un mois après mon éditeur me dit bon, ça va pas du tout, on va arrêter la série. Je dis quoi? Et comment? En un mois, tu me le catais.
Qu'une possibilité d'installer le titre, qu'une possibilité de créer la communication.
Et j'ai dû me battre pour qu'on fasse 3 tomes, et pour ça j'ai dû faire 3 tomes en un an. Pour que ça sorte vite, mais voilà. Et c'est que maintenant, 3 ans après, que les gens commencent à me parler de la série, que le public commence à m'en parler, parce qu'il faut, du temps pour que ça s'installe.
Il y a un phénomène qui est qu'un certain nombre d'éditeurs continuent de sortir des nouveautés parce que ça leur permet d'entretenir le réseau commercial, mais en fait, se contentent de vivre sur des grandes valeurs sûres qui sont sorties il y a 20 ou 30 ans. Ça coûte pas trop cher, l'auteur embête pas trop, il touche ses droits et tout va bien. Donc on sort les nouveautés pour faire de la tête de gondole et faire du volume, mais on les défend pas. Et moi, en repassant avec la casquette journaliste de bande dessinée, je peux te garantir que ça m'arrive d'appeler des services de communication d'éditeurs en leur disant je voudrais avoir le visuel de telle couverture, ou je voudrais savoir quel est le prix de tel album que vous allez sortir dans le bimestre ou le trimestre qui vient. Et ça m'arrive de tomber sur des attachés de presse qui n'ont aucune idée de projet sur lequel je leur parle.
Traité expédié, en fait.
Tout le monde n'est pas traité comme ça, mais chez certains éditeurs, il y a clairement un effet de masse qui fait qu'on sort plein de choses. Alors je ne sais plus combien d'albums il y a par an, c'est gigantesque.
Je ne sais plus, c'est un truc de fou. À un moment, je croyais, est-ce qu'on est dans un cas de figure où en fait les responsables de ligne éditoriale, les responsables de collection sont perdus dans la masse, il y en a tellement à sortir qu'ils n'arrivent plus à suivre.
Il faut se méfier du « les », tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a « des ». Voilà. Mais Mais sans doute, oui, bah, parce qu'il y a, certains responsables de collection qui sont obligés de répondre à la demande du réseau, à la demande de leur patron. Et après tout, obéir à son patron, on peut le comprendre. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des projets qui seraient capables de toucher un public si à un moment on faisait le vecteur, si on disait écoutez les gars, il y a ça qui sort, ça va peut-être vous intéresser. Or, pour un certain nombre de projets, ça ne se fait pas. Il y a aussi un phénomène qui se passe beaucoup en France, qui est le je lance un album, et une fois que tu as fait 20 ou 30 planches, je dis ah ben non, finalement on a réfléchi, on le fait pas. Or, le dessinateur, alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais dans plein de maisons d'édition, tu es payé une partie à la commande, une partie à la livraison des planches, et puis une partie à la sortie de l'album.
Non, c'est plus comme ça. Voilà. Maintenant, moi, en tout cas, pour mon cas, et pour beaucoup d'auteurs aux éditions Soleil, où je travaille en majorité, c'est payé à la page. Ouais. C'est à la livraison des pages.
Moi, j'ai ouï dire d'éditeurs qui faisaient ça,
ça a été fait, oui.
Ce qui est un contrat un peu type, dans le monde de l'édition. Sauf que toi, quand t'es dessinateur et que t'as commencé en te disant je me projette sur X mois, je vais toucher tel chèque à telle date, et qu'au bout de 20 planches, on me dit ah non, mais finalement, on n'ira pas jusqu'au bout. Ça veut dire que tu peux t'asseoir sur le chèque de livraison, enfin final, et puis le chèque de sortie. Et donc, tu vas toucher un reliquat. Donc, imagine des gens qui ont une famille à mener, et tu comprends le regard des dessinateurs de bande dessinée en ce moment.
C'est impossible de se projeter, en fait, de faire des projets d'avenir dans ce métier-là, c'est très difficile, en fait.
C'est très dur.
C'est là justement la transversalité est importante. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, sans le web, sans les réseaux sociaux, sans finalement toute la com, internet et rapide finalement qu'on a maintenant, vous pensez qu'on pourra encore faire de la BD ?
Je sais pas, parce que l'un fait partie de l'autre et tout. Peut-être que si on était à une époque où il n'y avait pas internet, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de titres, je sais pas. Parce que c'est aussi internet qui a créé cette demande, parce que les gens sont habitués à voir les choses de plus en plus vite et de meilleure qualité grâce à internet. Donc je sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, là, du fait qu'on ait internet, qu'on ait les réseaux sociaux et tout, on est obligé. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, je suis obligé de montrer ma gueule sur Facebook, sur Twitter pour dire hey, regarde, j'ai fait un dessin, c'est trop bien. Voilà. Personnellement, je suis pas très fan de faire ma promo, mais il faut le faire.
Pour revenir un petit peu à ce que disait Xavier, Jessica, Philippe, en tant qu'auteur, au niveau de l'accompagnement éditorial, vous le vivez comment ? Est-ce que toi, tu as un peu plus d'expérience ? Est-ce que tu penses que ça s'est dégradé ? Et toi, Jess, est-ce que c'est bien passé pour toi ? Est-ce que ton directeur de collection était derrière toi ? Est-ce que tu as été guidé ? Est-ce que tu as été accompagné ? Comment ça s'est passé pour vous deux ?
Jessica, peut-être ?
Qui commence ?
Ça s'est très bien passé. Ils étaient très à l'écoute. Ils ont accompagné. Il y a des parfois ils sont passés derrière pour la relecture.
T'as pas demandé, fais tes planches, on verra à la fin.
Non, ils suivent toutes les semaines le processus de création. C'est bien quand ils sont appliqués, c'est bien. Voilà.
Alors que moi, pendant très longtemps, j'ai bossé avec des gens qui n'en avaient rien à faire. Mais j'ai pris ça du point de vue positif, c'est-à-dire que quand je faisais Saint High School, Serge Hamster de l'Enfer, Magic at John Campbell, tout ça, on était censé avoir un responsable éditorial, sauf qu'ils ne savaient pas de quoi parler nos bouquins, clairement, ils n'en avaient rien à foutre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà, donc ça m'a appris à me discipliner moi-même, à rendre mes pages à temps, à essayer quand même de faire des trucs pas trop pourris. C'est sûr que j'aurais bien aimé de temps en temps avoir un avis extérieur. Mais voilà.
Mais du coup, finalement, t'as fait les planches que tu voulais.
C'est ça. Voilà. En fait, voilà, c'est ça le truc. Après, ça m'a permis, c'est là où je prends vraiment le point de vue positif, c'est que les bouquins qui sont sortis, c'est 100% moi et 100% Flo. Je peux pas dire on m'a imposé tel choix, on m'a imposé machin. Donc s'il y a des gens qui disent ça j'aime pas, je dis c'est moi. Voilà.
Et vous voyez, alors, il y a des auteurs de manga qui ont été découverts par internet. Il y a eu un grand succès dernièrement, c'était One Punch Man, qui finalement l'auteur avait sorti vite fait des pages, et puis quelqu'un a vu ce qu'il a fait, il a dit écoute, je vais le refaire, ça va être génial, on va en faire un super titre. Il y avait eu l'attaque des titans finalement qui avait été découvert comme ça, qui sont des titres très très forts maintenant en édition. On a quelques auteurs aussi en franco-belge comme ça qui ont été découverts. En comics, je ne sais pas si on peut vraiment avoir ça.
Si, tu as des choses comme ça. Alors après, le comics aujourd'hui est un peu en train de se réorienter parce qu'il a longtemps été sous la domination vraiment des éditeurs. Les personnages, enfin, tu n'avais, pour prendre un exemple, tu n'avais guère que le cas de figure de Spirou, c'est-à-dire que tu avais des personnages emblématiques et en gros, tu voulais faire carrière, tu étais obligé d'aller voir Marvel pour faire Spider-Man. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont développées. Avant, ce qu'on appelle le Kratoron, c'est-à-dire la bande dessinée qui appartient à ces auteurs, c'était l'exception. Ces dernières années, sous l'impulsion, tout à l'heure, on parlait de Walking Dead et de
Kirkman,
mais aussi des projets de Mark Millar. Mark Millar qui a systématisé, qui a pris le système des majors américaines et qui les a doublés. C'est-à-dire qu'il fait un projet, il signe le film avant même que le premier numéro soit sorti et tous les droits vont dans sa poche.
Oui, le Millarverse.
Voilà. Donc tout ça se développe et ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui veulent faire carrière, maintenant, ils vont plutôt taper à la porte de Image, Dark Horse ou des petits labels comme ça, où ils gardent les droits de leur série et ils ont éventuellement des droits dérivés de séries télévisées, de choses comme ça. Alors du coup, pour répondre à ta question, ça veut dire qu'on a très peu de gens qui émergent d'Internet et qui d'un seul coup cassent la baraque. Par contre, on a beaucoup d'auteurs qui sont déjà en vitesse de croisière et qui, grâce à Internet, font voler des choses. C'est-à-dire que Brian Kevogan, qui est un scénariste vedette aux États-Unis, il a sorti des choses gratuitement sur le net qui l'éditent maintenant sous forme de recueil en comics.
D'accord, et qui se vendent donc, malgré le fait qu'il a d'abord une parution.
Qui se vendent parce qu'il est très populaire.
Oui, parce que c'est Brian Kevogan.
J'en profite pour rebondir sur ce que disait Xavier. On a tous une petite expérience dans le comics, que ce soit dans la BD en comics, sur le transmédia, que ce soit les comics adaptés en film, comme tu disais à l'instant avec Mila, que ce soit par rapport à Philippe, la web série adaptée en BD, ou par rapport à Jess, une BD qui se décline sur plusieurs univers, sur plusieurs supports. On a tous une petite expérience du transmédia. Est-ce que le transmédia, ça serait pas une sorte de réponse possible au rétrécissement du marché de la BD à l'heure actuelle? Ou alors, est-ce que c'est juste une marotte des éditeurs pour limiter les pertes?
Moi, perso, c'est vrai que je vois ça comme une alternative presque inévitable. Ça devient dur de se faire connaître si t'as pas plusieurs supports. Voilà, moi c'est vrai, je fais la BD Noob. Si on n'avait pas eu la web série en amont, je sais pas si on en aurait vendu autant pour le même album. Je sais pas, on le saura jamais. Mais ça aide énormément. Voilà, j'ai fait l'adaptation en BD du dessin animé Foot de rue. Le fait qu'il y ait un dessin animé, le fait que sur les BD il y ait le logo France 3, ça a fait qu'on a vu multiplier les ventes par 10. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas si quelqu'un qui arrive maintenant avec juste un tome 1 qui est pas lié à un projet, à quoi que ce soit. Et... Après, ça veut pas dire qu'il faut faire que des adaptations, mais justement, quelqu'un comme ce qu'il disait de Mark Millar, c'est vachement intéressant. Effectivement, qui crée un concept, qui en fait un comics et qui en même temps le vend au ciné, et les deux sortent quasiment en même temps, quand c'est bien foutu.
Le transmédia il existe depuis le 19e siècle. En fait, quand tu regardes les auteurs, faut savoir que les auteurs à l'époque, ils publiaient leur roman feuilleton dans des journaux. Le livre, c'était déjà un peu la sortie DVD pour eux. Et quand ça marchait bien, ils montaient ça en pièce de théâtre. Ils avaient déjà monté. Et puis dans le 20e siècle, on s'est convaincu que l'œuvre, c'était un truc autonome, fini. Et on a eu quelques décennies là où on est parti dans le cliché, tu sais, du peintre maudit avec l'oreille coupée, tout ça, l'artiste qui souffre. Alors que la vérité, c'est que le transmédia, dans les années 30, tu avais des BD qui sortaient, qui étaient immédiatement adaptés en radio, et des shows radio qui sont devenus des BD, des choses comme ça. On ne se posait pas de problème parce que les gens qui créaient ces projets-là avaient la notion d'être des artisans. Quelque part, le mot artiste, qui est un joli mot, il s'est un peu galvaudé et on a voulu en faire des choses. Donc, il ne faut absolument pas mélanger, il ne faut pas faire d'œuvres collectives, il ne faut pas faire de choses multimédia. On y revient parce que justement, maintenant, les outils sont à la portée de tout le monde et que tu ne peux pas, nier l'éléphant que tu as devant le nez. Quoi. Je crois que le multimédia, le multisupport, c'est une manière d'aller chercher les gens partout. C'est-à-dire que c'est une manière d'aller chercher des gens qui d'habitude ne lisent pas de bande dessinée et puis qui se disent « Tiens, cette histoire m'intéresse. Ah bon, je la trouve dans une bande dessinée, alors je vais aller lire ce truc-là. » Donc c'est une super opportunité pour tous les supports concernés d'échanger un petit peu, de croiser les effluves, comme on dit. Voilà.
Justement, le marché de la BD, enfin, le marché, l'univers de la BD, dans 5 ans, vous le voyez comment ?
C'est une grosse question, ça, quand même. Ouais. Avec de l'exactitude, hein, bien sûr. Dans 5 ans, où, comment et avec qui?
À telle date, attention. Hein.
Déjà, un mardi, obligatoirement. Moi, personnellement, encore une fois, voilà, je suis pas... moi, je suis à la base, je suis un mec qui reste enfermé chez lui toute la semaine à dessiner des pages de BD tout seul. Donc, je suis pas, voilà, j'ai pas une grande vision du monde de la BD au sens large. Donc, à mon avis, juste personnel, je pense qu'il sera peut-être réduit. Je pense qu'il y aura moins d'auteurs et moins de sorties. Mais c'est peut-être que je me plante totalement. Peut-être qu'à l'inverse, parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que ce qu'on disait, il y a beaucoup d'auteurs qui ont du mal à en vivre. Mais d'un autre côté, les ventes de livres augmentent. Le marché du livre se porte bien, mais pourquoi les auteurs en vivent pas? Enfin, y a plein de paradoxes. Donc là, il faudra un économiste ou un mec comme ça. Peut-être que Xavier ici.
Moi, je pense qu'il y a différentes hypothèques. D'abord, il y a une hypothèque qui concerne la presse en France. C'est-à-dire le nombre de kiosques. Moi, j'ai commencé, je me souviens, pas tout à fait au début, mais quand on était, dans les premières années de Comic Box, il y avait une phrase qui était de dire qu'il y avait un kiosque, enfin un point de vente de presse par commune. Il y avait 36 000 communes, il y avait 36 000 points presse à peu près. Alors c'était bien entendu une côte mal taillée, il y avait des grandes villes qui avaient différents points de vente et puis des petites villes, des petits villages qui n'avaient rien, mais globalement c'était ça. Le maillage était comme ça. Et je crois que les dernières statistiques, c'est quelque chose comme moins de 25 000.
Ah oui, une sacrée réduction.
Et donc, alors tu peux dire, bah oui, mais les gens vont aller chercher leur magazine, leur BD ailleurs, mais non, parce que quand t'es dans un petit bled et où on t'explique que d'un seul coup, va falloir faire 60 km de plus pour trouver le rayon le plus proche. Alors tu veux venir aujourd'hui, il y a de la VPC, il y a Internet aussi, mais tu n'as plus l'achat d'impulsion. Ça veut dire que le type qui rentrait dans un bureau de tabac pour acheter le journal et puis qui est tombé sur une couverture marrante et qui disait, bah, tiens, je vais le prendre ça aussi pour moi ou pour le gamin, ce truc-là n'existe plus.
Disons que j'ai pas la naïveté de penser que le dématérialisé a remplacé tout ça.
Le dématérialisé, il est très bien quand tu as décidé toi d'acheter quelque chose.
Ouais.
Mais ce qu'on a l'achat d'impulsion, c'est le hasard qui fait que tu tombes sur un truc qui t'intéresse et qui te dit tiens, je vais le prendre. À partir du moment où tu divises, tu décimes les rangs des points de vente, tu perds ce truc-là. Donc ça, dans 5 ans, la presse, elle sera dans quel état? Eh ben, je ne sais pas. Et c'est une hypothèque sur le truc. Tu as aussi le numérique. Alors le numérique fonctionne très bien aux États-Unis, mais il fonctionne 2 à 3 fois mieux qu'en France, parce que la bande dessinée aux États-Unis, pour parler de ça, était historiquement sur pratiquement du papier journal. Donc quand tu as un support consommable, passer de la tablette, c'est pratiquement naturel, il n'y a pas de problème. Là en Europe, tu vois, les gens me disent.
Les gens valident.
En Europe, on a eu depuis plus longue date la religion de l'album, de l'objet qu'on garde. De l'objet qu'on garde, ce qui est très bien. Il y a plein de choses à faire avec ça et c'est bien de le garder. Simplement, quand tu as l'objet que tu gardes, tu as moins ce déclic de dire bah oui, je vais sur la tablette. Donc les statistiques n'ont rien à voir. Donc le relais de croissance par rapport au numérique, c'est pas le même en Europe. Donc il y a des questions qui se posent comme ça. Est-ce qu'à un moment, certains éditeurs ne vont pas abandonner le kiosque pour ne faire que de la tablette? Est-ce qu'à un moment, certains éditeurs étrangers de manga ou de comics ne vont pas se dire bah, finalement, pourquoi je ne prends pas un traducteur français directement et pourquoi je n'édite pas mes propres comics numériques ou mes propres mangas numériques depuis le pays? Ça ne me coûte rien et c'est moi qui touche l'argent directement. Tout ça, c'est des hypothèses. Mais ça veut vraiment dire que d'ici 5 ans, non, on ne sait absolument pas où ça va.
Peut-être un titre plus personnel, Jess, toi tu te vois où dans 5 ans? La question piège.
Franchement,
tu débutes justement première édition là.
J'espère que ça continue. Hein.
Mais tu sens que ça peut continuer ou tu te dis je veux en profiter tant que ça dure? Outre bien sûr la notoriété que tu peux avoir toi, mais le média en lui-même. Tu dis peut-être que dans 10-15 ans, il n'y aura plus de BD. Ce que je fais maintenant, j'en profite maintenant, parce que dans 15 ans, il n'y en aura plus.
Je pense qu'il y en aura toujours, mais sous d'autres formes. Voilà.
Ça, oui, je pense qu'il a la raison, il y aura toujours de la BD et des gens pourront lire.
Alors, tu n'es pas obligé de répondre, hein, sans trahir le secret des dieux, est-ce qu'on t'a déjà proposé d'autres projets?
Non, pas pour le moment. Les légendaires, c'est quand même...
C'est un gros morceau.
Oui, voilà, puisque j'écris avec Patrick Sobral, et donc il n'y a pas seulement que le dessin, il y a tout ce qu'il y a derrière, raconter l'histoire, proposer de nouvelles choses, en fait.
Toi, tu fais le montage, la couleur, co-scénariste. tu livres presque le produit fini. Il y a encore des dessinateurs qui eux font les pages, qui confient à un maquettiste, des choses comme ça. Savoir tout faire maintenant, obligatoire en BD?
Oui,
ça peut aider. Oui, là je m'en suis aperçu. Bah, nous on a lancé donc la maison d'édition Olydri pour éditer Sentai School, pour éditer Neogicia, le blog de Gaïa, enfin voilà, pour éditer des projets liés à nous ou non. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu comme des crétins sans maquettiste à se dire, bah, tiens, il serait peut-être temps qu'on sache comment faire. Et quand on a dû refaire la maquette des 5 tomes de Sentai School, on n'était pas fiers. Donc ouais, je pense que oui, il vaut mieux maintenant que les auteurs se forment au fur et à mesure et ça permet de gagner.
On peut plus juste être dessinateur ou être juste auteur, faut voilà.
C'est ça, c'est un peu
savoir s'entourer
de soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu dois, quand t'es auteur, tu dois faire ta com, tu dois faire ton limite, tu dois faire ton bouquin tout seul. Et l'éditeur, au bout d'un moment, t'as l'impression qu'il est juste là pour imprimer ton bouquin, mettre du carton autour pour faire une couverture et l'envoyer
en distribution.
C'est l'éditeur zéro degré. Il n'y a pas que ça,
non, je caricature, mais hélas, personnellement, j'en ai connu beaucoup comme ça. Après, il y a aussi de très bons éditeurs.
Les très bons éditeurs sont de plus en plus appréciés parce qu'ils sont.
Voilà,
c'est l'avantage. Voilà. On les remarque,
voilà.
Et justement, Philippe, tu parlais des éditions Olydri. Ça y est, je vais mettre les mots dans l'ordre, ça va être pas mal. Qui se sont lancées il y a peu de temps. Quelles sont vos actualités un petit peu à tous?
On va commencer peut-être par Philippe.
Oui, alors chez Olydri Édition, on a la réédition de Sentai School qui continue. Le tome 3 est sorti il y a un mois, le tome 4 sort au mois de mai, le tome 5 en juin. En juin, on lance aussi une nouvelle BD qui s'appelle Le Bloc de Gaïa, qui est un autre spin-off de nous. Bon, on reste toujours dans la branche, ce qu'on disait, le multimédia, avoir plusieurs supports et tout, que je dessine aussi. Florence fait les couleurs.
Oui, c'est scénarisé par une illustre inconnue qui s'appelle Anne-Laure Jarnet, je crois.
Voilà, qui joue le rôle de Gaïa dans Noob. Sinon, on sort aussi un manga français, même si je déplore ce terme, vraiment, j'aime pas du tout ce terme manga français, mais bon, les gens aiment bien. Qui s'appelle Golem, scénarisé par Federico Zolfanelli, Amandine Tagliavini, qui sont aussi des acteurs de Noob, donc on reste entre potes. Je crois que c'est déjà pas mal, voilà, pas mal de choses.
Dessiné par Alexis Talon,
oui. Et non, j'essaye de pas prendre du temps parce qu'on a plein de trucs. Et la bande dessinée Noob continue aux éditions Soleil aussi. Le tome 11, je suis dessus et il sort au mois de septembre. Et on a un artbook aussi qui sort aux éditions Soleil au mois de juin pour Japan Expo.
Voilà. Alors, est-ce que je peux te faire lâcher une exclu ou pas? Le tome 6 de Sentai, il y a une date ou pas?
Le tome 6 de Sentai School, on espère pour Japan Expo 2017.
Voilà, merci beaucoup.
Je sais qu'on peut faire la place en bibliothèque, parfait. Merci.
J'ai commencé, voilà, le scénario de l'épisode 1 qui fait 16 pages est entièrement écrit, il est entièrement storyboardé et je n'ai qu'une hâte, c'est voilà, de me mettre à le dessiner.
Campagne participative?
Oui, on a fait une campagne, un Ulule.
Pour le transmédia aussi.
Oui, bah oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, l'importance des financements participatifs, tels que Ulule, Kickstarter et tout, il y a beaucoup d'auteurs qui s'en servent. Nous, on l'a fait pour Sentai School, ça nous a permis de ramener la série et de financer un tome 6 inédit.
Donc pour 2017, celui-ci.
Ouais.
Xavier, toi, ton actu, je sais qu'il y a Comics Box 100 qui est sorti, c'est pas rien.
On a le 100e numéro de Comics Box qui est sorti la semaine dernière. Et
joyeux anniversaire.
Ça fait 18 ans que le magazine existe, donc on a... Je disais tout à l'heure, avant que l'émission commence, on n'est pas plus intelligent ou plus idiot quand on travaille sur le 99. Le sang était dans la suite logique, mais c'est un petit seuil qui est assez rigolo parce que on a connu une époque où clairement des gens pratiquement en face nous disaient de toute façon les comics vous allez faire 6 numéros et puis vous n'aurez plus rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire. Et quelque part que le ghetto du ghetto soit capable de faire 100 numéros alors que des magazines entre guillemets généralistes de bande dessinée comprendre bande dessinée européenne sont venus puis sont repartis. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est un seuil qui est dont on profite, on pourra pas nous enlever, c'est son numéro. Et puis je fais des. Donc j'ai déjà sorti là sur les deux dernières années deux gros livres sur les super-héros français parce que ça me semblait intéressant de voir un petit peu l'autre face du miroir, pourquoi et comment il y a eu plein de super-héros français et pourquoi en fait on les a cachés sous le tapis à un moment, pour des questions culturelles qu'on a un peu évoquées tout à l'heure. Et là, fin mai, je sors un bouquin qui s'appelle Super-héros à l'envers du costume, qui est une compilation d'une rubrique qui existe dans Docteur Psycho, qui s'appelle... qui existe dans Coming Box, qui s'appelle Docteur Psycho. Donc ça fait plus de 200 numéros, puisqu'il y a les hors-séries, tout ça. Donc on a fait un best-of, on a pris, je crois, les 70 ou 72 chroniques dans un ordre thématique. Alors tout ce qui touche à la vie sexuelle des super-héros, tout ce qui touche à la vie domestique et compagnie, voilà, ça c'est ce bouquin-là qui tombe bien finalement pour le centième numéro. Et j'ai un autre bébé qui va sortir sur la fin de l'année, qui là pour le coup chronique la Seconde Guerre mondiale racontée par les comics. Donc vraiment un truc qui t'explique comment en fait telle bataille, comment Captain America s'intéressait à telle bataille de la Seconde Guerre mondiale, comment ce général que tu vois dans le fond, en fait c'est un aviateur très connu et que voilà, ça correspond à tel truc. Et en fait c'est tout le fil directeur de la Seconde Guerre mondiale, mais à travers des comics d'époque ou des comics plus récents qu'on fait des flashbacks.
Super. Très intéressant. Sur les deux univers, hein, autant du côté DC que du côté Marvel.
Et pas que des super-héros aussi. Il y a des séries de G.I. comme Sergent Rock ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment... je pense que ça sera marrant.
Comme on dit, la BD franco-belge, c'est pas que Tintin. Le comics, c'est pas que les gars avec des capes. Voilà, c'est... Et le manga, c'est pas que des gars avec des cheveux jaunes.
Alors j'ai un grand guide dans l'univers du comics, n'est-ce pas, mon cher H. Mais je ne suis encore qu'un level... amateur éclairé pour l'instant, alors que tu m'inities.
Tu viendras faire dans la bibliothèque et puis après on essaiera de retrouver l'adresse de Xavier pour piquer dans la sienne. Je pense que c'est le plus simple.
Alors j'ai une porte blindée chez moi.
Donc on prendra comme d'habitude le pied de biche. Jessica, ton actualité, donc là, les légendaires Parodia, Thomas.
C'est sorti il y a très peu de temps, il y a quelques jours.
Mercredi
dernier, voilà. C'est tout nouveau, tout frais, tout chaud.
Et tu bosses déjà sur.
Le tome 2.
D'accord, bon. Donc on peut te souhaiter de continuer.
Est-ce que là c'était des sketchs en une ou deux pages, c'est ça ?
Une page.
En une page. Est-ce qu'il y a peut-être une évolution du format ? Tu vas rester sur ce format sketch en une page ?
Toujours. Voilà.
Non, parce qu'il y en a, ils commencent comme ça en sketch en une page et on les finit, ils font des trilogies sur 3 BD.
Il faut s'en prendre au scénariste aussi.
Écoutez, j'ai une dernière question très, très mode détente. Est-ce que vous êtes fan de manga tous ici ?
Est-ce que vous en lisez au moins ?
Est-ce que vous en lisez ?
Moi je suis j'en ai lu à une époque, mais on va dire canal historique, moi, tu vois, les Akira, les choses comme ça, Lone Wolf and Cub, j'en ai beaucoup consommé, mais il y a un moment où c'était pas trop le pouvoir d'achat et la place qui est un gros problème aussi, ça suivait pas, donc je me suis un peu amputé du reste et je me suis vraiment concentré sur les comics.
Bon, ça n'a pas d'impact sur la question, donc tout va bien.
Manga, tu le sais, tu es venu chez moi, tu as vu mes étagères.
Mais eux, ils ne savent pas derrière leur caméra.
Je suis un très 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 grand fan de manga. J'ai eu des périodes plus ou moins creuses. Par exemple, il y a 2-3 ans, j'achetais quasiment plus de manga à part les rééditions des classiques comme Dragon Ball, City Hunter, tout ça. Parce que ce qui sortait en France m'intéressait pas. Et là, je m'y suis remis depuis 2 ans à peu près, à racheter des trucs de manière intensive. Il y a des éditeurs, peut-être plus Kiun, qui sortent des trucs super intéressants comme Silent Voice, Your Lie in April, Kasame. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs super qui sortent. Et puis je reste, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la meilleure BD du monde, c'est One Piece. Et je reste fan à la vie, à la mort. Voilà.
Jess ?
Le manga, ça a été quand même très important pour moi, puisque. J'avais des petites difficultés avec le franco-belge quand j'étais enfant, donc je me reconnaissais pas vraiment dedans. Mais le manga, pour moi, ça m'a mis vraiment le pied dans l'image, en fait.
Sans le manga, pas de BD pour toi ? T'aurais pas fait de la BD ?
Pardon ?
Si tu n'avais pas eu le manga, t'aurais pas fait de la BD ?
Si, parce qu'il y avait quelque chose, quoi.
C'est vrai que le manga a amené beaucoup de filles à ça. Et si Flo était venue, elle l'aurait dit aussi. C'est vrai que toutes les BD avec lesquelles on a grandi dans les années, pour ma part et pour Flo, dans les années 80-90, il n'y avait pas grand-chose pour que la lectrice puisse s'identifier. Et le manga a apporté ça, vraiment. Ouais. Le manga a amené quelque chose qui a pu toucher le public féminin, dire on peut faire des histoires qui vous parlent. C'est vrai que bon.
Justement, vu que tu évoques le sujet, est-ce qu'on peut se permettre une petite digression ?
Alors, je pense. Je pense que je sais vers où tu vas. Je t'en prie, vas-y.
Est-ce qu'on peut évoquer justement l'épineux problème de la femme dans la bande dessinée, qui a été soulevé à Angoulême il n'y a pas longtemps.
Et bien ailleurs, et qui encore se pose aujourd'hui, qui malheureusement se pose aujourd'hui, alors qu'elle ne devrait pas se poser cette question.
Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, en tant que professionnel ?
Moi, j'ai deux opinions, en fait. Alors d'abord, il y a la femme dans la bande dessinée telle qu'il vient d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, à part le déclic de Manara, la femme dans la bande dessinée, c'est Falbala, c'est la jolie fille.
Barbarella.
Oui, Barbarella, encore, c'est assez progressiste hein, dans le contexte de l'époque. Mais globalement, c'était plutôt... la bande dessinée semblait être un truc de garçon. Alors, ce qui n'est pas entièrement vrai, parce qu'aujourd'hui que ça... qu'on sort un petit peu des clivages, tu vois arriver dans plein de festivals de bande dessinée des jeunes femmes qui lisent de la BD depuis 20 ou 30 ans. Simplement, avant, tu t'en vantais pas ou tu tenais pas dans les librairies parce que ça pue un peu le book finalement, et c'était un peu la parodie de Big Bang Theory. Donc, voilà quoi. On en parle plus facilement, et à un moment c'était quelque chose que de toute façon c'est vrai que la bande dessinée c'est pas un truc, c'est pas une soirée pizza devant un match de foot et tout le monde en parle. C'est plutôt un plaisir solitaire. Après tout, la bande dessinée, tu peux la lire dans les toilettes, et donc tu peux collectionner, tu peux lire c'est plein de poésie hein, tout ce que je te dis.
J'aime beaucoup c'est une métaphore filée, j'adore ça.
tu peux lire la bande dessinée pendant des années chez toi sans en parler à personne. C'est pas un truc qui est en tout cas ça change un petit peu sous l'influence des forums, mais historiquement, sociologiquement, c'était pas dans les usages. Donc aujourd'hui, on sort de ça, et ça veut dire que la lectrice, on la voit, genre, ne serait-ce que les cosplays qui viennent plutôt de l'univers du manga, qui se sont redistribués sur les comics, ça fait beaucoup de bien, parce que ça veut dire qu'on voit des gens de tous les âges, on voit des gens des deux sexes, et c'est pas, y a pas une partie du public qu'on planque en disant non, ces gens-là n'existent pas. Alors après, le vrai problème, il n'est pas la femme dans la BD, il est pourquoi la femme qui fait de la BD, elle n'est pas payée le même prix.
Pourquoi c'est un problème, en fait. Le problème, c'est pourquoi c'est un problème.
C'est
une question
qui se pose.
Non, le problème n'est pas la femme, c'est ce qu'il y a autour. C'est pourquoi il y a des espèces de clichés, comme on pouvait peut-être les imaginer avant la libération de la femme, en disant c'est l'époque qui veut. Et pourquoi aujourd'hui, statistiquement, des dessinatrices, des coloristes, des scénaristes ne sont pas payés le même prix.
Moi, j'ai une anecdote juste très drôle qui illustre le propos. C'est il y a quelques années, pour Santa High School, on était à Angoulême avec Florence, et on sort d'une soirée à l'hôtel, le grand hôtel où il y a tous les auteurs qui se retrouvent pour boire un coup, machin, et on tombe sur un fan de BD. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'était la caricature du fan de BD belge, avec un accent très fort, comme ça, et qui nous regarde tous les deux. Il voit qu'on était auteurs, parce que j'avais un carton BD. Et il me regarde, il regarde Florence et il fait « Alors toi t'es le gars, tu fais les dessins, toi t'es la fille, tu fais les couleurs. » Mais comme ça, naturel, pour lui c'est naturel, la femme, pour lui c'était les couleurs. Alors Florence est énervée, elle a dit « Non monsieur, je suis scénariste » et elle est partie. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça, et oui, on ne sait pas pourquoi cette image perdure de la femme doit être une assistante de l'homme. Mais non, mais c'est totalement con. Bah, Jessica est là pour le prouver.
Tu l'as eu aussi, toi, t'es une fille, tu fais pas la BD, ou tu fais la BD, c'est bizarre, non?
Oui, il y a des gros clichés qui restent.
Et t'en es encore victime ou pas?
Moi, non.
T'as la chance de non, mais...
Mais c'est je pense que c'est la nouvelle génération, en fait.
Tu es en train de sortir de ça?
Oui, voilà. On n'a pas eu ce regard-là. On n'a pas été considéré comme ça. Maintenant, je pense que les nouveaux auteurs vont amener un nouveau regard neutre.
Donc le regard du public va changer aussi,
c'est ça? Oui, voilà. Je pense que tout a amené à changer. Mais c'est vrai que là... Les anciens, on va dire, sont toujours là, quoi. Donc
ça reste quand même, mais oui. Ça a bien changé pour toi.
Oui, je pense, oui.
Une question qui reste de plus poser dans quelques temps, en fait.
On espère.
On espère.
Au niveau de la planète. Je sais pas si elle risque, mais il faut qu'elle se pose plus. C'est tout, quoi. Parce qu'il y a un moment, c'est n'importe quoi, quoi. Tu vois bien, par exemple, ce qui a vraiment fait polémique, c'était les statistiques de représentation des femmes dans les palmarès de festivals de BD. Et c'est peanuts. Donc on peut se reposer sur l'histoire ou des choses comme ça, mais il y a un moment où il faut un peu aller de l'avant.
Il va falloir le faire un peu à tout ça et revenir à quelque chose de plus propre. Ces questions-là ne se posent plus.
Et puis en fait, c'est des polémiques qui sont là pour en cacher d'autres. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours plus choqué avec le festival d'Angoulême, c'est le Grand Prix à tout
toujours été, quasiment toujours, attribué à des dessinateurs. Et jamais, quasiment jamais à des scénaristes. Et pourquoi là, genre le dessinateur est plus important. Alors que je suis dessinateur, hein, je travaille avec des scénaristes et tout. Mais pour moi, le scénariste est l'égal. C'est lui qui crée le concept, c'est lui qui crée le projet, c'est lui qui crée un univers. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. Donc,
c'est
voilà.
Un peu le phénomène du chanteur, tu sais, dans les groupes, ça, finalement, le chanteur est plus important que le batteur, plus important que le
guitariste. Il y a un truc qui concernait au demeurant pas du tout la bande dessinée, mais qui était super intéressant à écouter, c'était l'intro de Chris Rock sur les Oscars, oui. où il expliquait. Ils ont eu une polémique aussi qui était la non-présentation dans les nominés d'acteurs de couleur, et noirs en particulier. Et lui disait, mais regardez comment on a résolu le problème de la représentation de la femme. On a créé des prix à part. Et c'est vrai que t'as le premier rôle féminin. Donc tu vois des espèces de trucs complètement... ça n'a aucun sens finalement, effectivement. Est-ce qu'un acteur est meilleur qu'une actrice? Est-ce que c'est différent? Voilà. On va presque être obligé de créer des prix féminins pour représenter ça. Faut arrêter les choses. Il y a un moment, faut un peu se libérer. Et puis, je vais te dire un truc. Ça vous arrive peut-être aussi pour certains mangas. Moi, pour certains comics, y a des fois, je calcule pas le sexe ou la couleur de l'auteur parce que c'est un nom qui est pas explicite. Et oui. Puis, je découvre X années plus tard, X mois plus tard, que Jan quelque chose. Non, finalement, c'était en fait une nana et voilà. Et tu n'as pas l'ADN de la personne qui est marquée dans certains noms. Et c'est finalement très intéressant parce que tu consommes dans le sens noble cette œuvre là et tu juges pas différemment le truc. Claire Wending au TGS là il y a pas longtemps expliquait que au début elle refusait de mettre son prénom dans ses premiers albums parce qu'elle voulait qu'on joue son travail
de manière neutre.
Voilà. On sexualise le travail.
Et peut-être que finalement, d'ailleurs c'est un usage qui est dans beaucoup de trucs artistiques, hein, où en général le peintre on l'appelle par son nom et pas par son prénom. Peut-être qu'il faut en revenir par là. Et puis je sais pas, peut-être arrêter de gesticuler. Moi j'ai vu des choses absolument abominables aux alentours du mois de janvier, de février, de gens qui criaient au politiquement correct parce que oh mon Dieu, quelle horreur. S'il parle de donner un prix à une femme, c'est bon, quoi.
Je crois que ça méritera une autre émission, un autre débat,
oui,
parce que
le sujet là, on peut parler pendant un sur un vaste sujet. Donc, oula, je sais pas comment je vais revenir de là. la question à la base que je voulais vous poser, c'était quel était votre premier coup de foudre en termes de manga? Quel était vraiment le premier manga que vous avez découvert, celui qui vous a fait tomber amoureux?
Et après, on va vous libérer quand même.
Voilà, ça va être la dernière question.
Manga, hein, enfin, manga, japonais, voilà.
Voilà. Bah, en fait, tu sais, la radio, ça s'appelle Japan FM.
Oui, je sais. Faut... moi, si on parle vraiment de manga papier, ça a été Dragon Ball.
Voilà. Dragon Ball.
Le jour où Monsieur Glénat a eu l'excellente idée de sortir Dragon Ball en kiosque, j'ai pleuré des larmes de bonheur pendant des heures et j'ai relu le même petit bouquin, le petit fascicule, des dizaines de fois d'affilée. Moi, c'est Dragon Ball à la vie et à la mort aussi. Hein, c'est voilà.
Alors je suis pas sûr de mon coup parce que j'étais gamin et je sais pas si c'était vraiment du vrai manga ou si c'était pas un truc italien qui imitait du manga. J'ai connu la grande époque de la popularité de Goldorak et il y avait des bandes dessinées de Mazinger qui sortaient dans les années 70 et je suis pas entièrement sûr que c'était du manga.
C'était redessiné
par dessus pour français, voilà, et pour, parce que la mise en page n'était pas la même, donc ils refaisaient les trucs, mais voilà, c'est le premier truc qui m'a un peu éclaté, qui était japanisant, on va dire.
Du grand robot Jessica.
Justement, je vais rejoindre Philippe. Heureusement, grâce à Glénat, en fait, on a pu avoir les premiers mangas dans les librairies. Et moi, le premier manga en fait que j'ai découvert, c'était en fait Sailor Moon parce que ça passait à la télé, hein, c'est Dorothée. Et en fait, j'aimais bien les dessins et tout ça, et ça m'a vraiment ouvert la porte du manga. À l'époque, il y avait Sailor Moon, il y avait Dragon Ball, Gun en manga. Et City Hunter, mais qui était chez J'ai lu. Ouais. Donc, pas grand chose de manga, mais.
Mais c'était là, en tout cas.
Mais en fait, pour moi, c'est. Ah.
On a connu une époque où on pouvait dire, les fans de manga, on disait j'achète tout ce qui sort en français.
Ah. Oui, c'est vrai. C'est
voilà, c'était possible.
Alors que maintenant, on parle de je vends mon rat chaque semaine. Oui, c'est un peu compliqué.
Non, maintenant, je suis à 6 volumes de retard sur ma série.
C'est ça, on parle de volume de retard, exactement.
Bah, on vous remercie beaucoup pour cette table ronde qui était très intéressante. Merci de votre participation. J'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs, enfin nos visionneurs, ont apprécié la qualité de la conversation. On va dire ça comme ça parce que c'est vrai.
Pour la rançon de Florence, on fait comment finalement?
Je pense qu'on va envoyer des ninjas. Ouais. C'est parti là. On va aller se.
Non, mais je vais la.
Il y a un TST là-bas, je pense que c'est.
Je vais la punir pour son absence qui est totalement impolie. Et elle sera privée d'écouter du Nine Inch Nails pendant 2 semaines.
Voilà. Une semaine pour moi, mais en 3. Ben, merci à vous tous d'être venus sur Japan FM, toujours en direct des Geek Days de Lille qui nous accueillent. Merci beaucoup à eux, on les remercie.
On vous retrouve où sur la convention justement, Xavier? Toi, tu te retrouves
dans l'artiste allée ou idéalement quand je suis pas en train de faire le pitre sur le stand de Japan, je signe mes bouquins.
D'accord, ok. Pour toi,
moi je suis sur le stand de Olibri Noob où pareil je dédicace tout ce qui est lié à la web série Noob. On a des posters, des artbooks, tout ça. Et toutes mes BD, donc Noob, Roll Queer, Sentai School. Voilà.
Je sais que tu n'es pas présent toujours.
Non,
sur un stand.
Je suis furtive, voilà.
Stand est en balade près des goodies Sailor Moon.
Mais il faut surveiller ton Facebook, ton site pour savoir où tu vas te trouver prochainement, la prochaine convention, je crois.
Oui, c'est ça.
Ok.
Je vous annonce 17h45 le karaoké sur la grande scène animée par Japan FM. Viens, il y a du bon. Viens, il y en a plein. Viens, il y en a plein. On va vous rendre l'antenne. Merci à toi, H, d'avoir co-animé cette émission avec moi.
De rien, ça m'a fait bien. Merci, Denshi.
Merci à toi.
Merci de nous inviter encore une fois.
Et on vous dit à très bientôt sur Japan FM.
Japan FM. Retrouve toute l'actu de la J-Music sur japanfm.fr.